journal de Cécile Bideau. Bonsoir Cécile.
Bonsoir. Veillée d'armes à Kiev, la capitale ukrainienne et ses habitants encerclés par les forces militaires russes s'apprêtent à résister. Nous allons sur place dans un instant. Vladimir Poutine continue de tenir des discours guerriers. Son objectif, destituer le président Zelensky. Il incite ce soir l'armée ukrainienne à faire un coup d'État. L'OTAN renforce sa présence défensive aux portes de l'Ukraine. Un sommet extraordinaire avait lieu cet après-midi. Précision à suivre. 50 000 Ukrainiens ont fui les combats ces dernières 48 heures. En France, plusieurs villes montrent leur solidarité. La Tour Eiffel sera bleue et jaune ce soir. Le monde de la culture est aussi mobilisé. Emmanuel Macron s'est adressé aux parlementaires aujourd'hui. Il appelle à l'unité de la nation et nous verrons que le message n'est pas bien passé auprès de certains députés. Critiqué pour sa proximité avec la Russie, François Fillon est contraint de démissionner de ses deux mandats au sein d'entreprises russes. Une épine dans le pied en moins pour Valérie Pécresse. Au téléphone sonne ce soir, nous poursuivons le débat avec vous, Claire.
Effectivement, on va se demander si ce qui se passe en Ukraine peut avoir un impact sur la présidentielle ici en France. Quelles conséquences pour la campagne? Les candidats vont-ils modifier leur programme? Sont-ils en train, pour certains, de changer leur discours? Quelles conséquences pour le président, qui ne s'est toujours pas déclaré? Dites-nous si pour vous, cette crise internationale modifie votre point de vue, si elle est susceptible de vous faire changer d'avis et de bulletin de vote. Pour cela, il vous suffit d'appeler le 01 45 24 7000.
À la fin de ce journal, un peu de rêve et de paillettes, ça ne peut pas faire de mal. La cérémonie des Césars, c'est ce soir. Le film Les Illusions perdues par Favori.
France Inter.
La menace russe se fait de plus en plus pressante sur Kiev. Au deuxième jour de l'offensive en Ukraine, l'étau de l'armée de Vladimir Poutine se resserre autour de la capitale. Les premiers combats ont éclaté ce matin dans cette commune de 3 millions d'habitants, transformée au fil des heures en ville fantôme. Les habitants tentent de se mettre à l'abri, tandis que sont échangés des tirs et retentissent des explosions. Nous sommes sur place en direct avec Omar Waman. Bonsoir.
Bonsoir Cécile.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de France Inter à Kiev. Vous vous trouvez à 20 km des lignes de front dans le nord de la capitale.
Oui, on vient d'entendre à l'instant les premières frappes russes de la soirée, des bombardements auxquels les habitants commencent à s'habituer, des habitants très peu nombreux dans les rues de la capitale. Beaucoup ont fui, d'autres restent cloîtrés dans leur foyer. Dans cette capitale de Kiev, on voit surtout des hommes en armes, des civils recrutés pour défendre la capitale. De nombreux jeunes font la queue régulièrement devant les centres de recrutement comme Vassili, qui a 23 ans.
Je ne me bats pas seulement pour l'Ukraine. C'est un combat pour être indépendant. C'est un combat pour notre liberté. Un combat pour la sécurité de l'Europe. Parce que l'Ukraine est en première ligne. Et tous ceux qui vivent en Europe doivent comprendre qu'aujourd'hui commence une guerre vraiment horrible en Europe. C'est une guerre pour la paix et nous avons besoin de cette victoire. Nous devons gagner.
Vassili qui a répondu à l'appel du président Volodymyr Zelensky, un appel désespéré à défendre la ville qui est littéralement assiégée par les forces russes qui se heurtent à une résistance farouche de la part de l'armée ukrainienne dont les chars, les blindés, les mitrailleuses sont postés, positionnés dans toute la ville, notamment aux entrées et sorties filtrées par des cordons de sécurité. Les sirènes qui annoncent des bombardements ont retenti à la tombée de la nuit, que de nombreux habitants passeront dans les abris, des abris disséminés dans la capitale.
Omar Waman en direct de Kiev avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Merci à tous les deux. Faut-il y voir une porte entrouverte vers un cessez-le-feu ou une nouvelle manipulation de Vladimir Poutine? Le président russe se dit prêt à entamer des pourparlers avec l'Ukraine. Les négociations auraient lieu à Minsk, la capitale de la Biélorussie. Quasiment dans le même temps, le président russe a pris la parole et a tenu de nouveaux propos très agressifs et surréalistes, appelant l'armée ukrainienne à renverser le président Zelensky. Sylvain Tronchet, bonsoir.
Bonsoir
Cécile. Vous êtes le correspondant de France Inter à Moscou et vous nous aidez à démêler les fils de ces dernières déclarations.
Comme vous l'avez dit, la proposition de discussion du Kremlin comportait un gros mais. Ce mais, c'est le Kremlin voulait que ça se passe à Minsk, donc pas vraiment en territoire neutre. Un temps, Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexander Loukachenko marchent main dans la main dans cette crise. Le Kremlin s'était d'ailleurs senti obligé de préciser que la sécurité de Volodymyr Zelensky serait assurée s'il se rendait dans la capitale biélorusse. Et puis finalement, une heure plus tard, le même Kremlin diffuse une courte déclaration de Vladimir Poutine Poutine que je vous propose d'écouter.
Encore une fois, je m'adresse aux forces armées ukrainiennes. Ne laissez pas les néo-nazis utiliser vos enfants, vos épouses et vos parents âgés comme des boucliers humains. Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu'il sera plus facile de négocier entre vous et moi qu'avec cette clique de toxicomanes et de néo-nazis qui s'est installée à Kiev et a pris en otage le peuple ukrainien.
Voilà, et là on a bien compris qu'une rencontre avec Volodymyr Zelensky était impossible. Le mot toxicomane d'ailleurs s'adresse directement au président ukrainien. Il fait référence en fait à des rumeurs qu'avaient lancées certains de ses détracteurs lors de son élection en 2019. Il dit surtout beaucoup de la pensée du président russe. Vladimir Poutine en appelle régulièrement aux valeurs traditionnelles, seules capables selon lui de faire rempart à la déchéance du monde occidental. Et Volodymyr Zelensky, ancien humoriste, ancien producteur de télévision, incarne finalement à ses yeux ce monde qu'il conspue, et tant pis si le président ukrainien a créé il y a quelques années une série télévisée qui est l'une des plus populaires en Russie aujourd'hui.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Dans le viseur de Vladimir Poutine, donc, le président ukrainien continue à exhorter sa population à prendre les armes et il en appelle même aux citoyens européens. Si vous avez une expérience du combat, vous pouvez venir. Zelensky reproche aux dirigeants occidentaux leur réponse trop lente à l'agression dont son pays est victime. Cet après-midi, l'OTAN se réunit c'est en urgence et à distance. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
La posture de l'Alliance Atlantique reste défensive mais renforcée.
Oui Cécile, au QG de l'organisation à Bruxelles, c'est le branle-bas de combat, mais pas question d'intervenir militairement sur le territoire ukrainien. Le sommet convoqué en visioconférence cet après-midi a validé l'envoi de renforts de troupes en Europe de l'Est pour muscler son flanc oriental limitrophe de l'Ukraine. Après les États-Unis qui vont dépêcher 7000 soldats en Allemagne, l'Italie vient d'annoncer aujourd'hui qu'elle était prête à déployer 3400 militaires dans la zone de responsabilité de l'Alliance. L'OTAN a décidé aussi de déployer sur le terrain sa force de réaction dotée de 40 000 soldats. Plus d'une centaine d'avions de combat sont prêts à décoller et plus de 120 navires de guerre alliés croisent dans les mers du Grand Nord jusqu'à la Méditerranée, notamment 3 porte-avions. Dans le communiqué final du sommet, les 30 pays membres dénoncent le barrage de mensonges de Vladimir Poutine. Nous ferons tout pour protéger le moindre centimètre carré du territoire couvert par l'OTAN, a martelé Jens Stoltenberg, le patron de l'Alliance.
Christian Chéneau de la rédaction internationale, mobilisé pour vous faire vivre cette guerre en Ukraine heure par heure sur France Inter. L'Europe accentue également la pression sur la Russie et l'une des armes à sa disposition, c'est la finance. Alors qu'hier soir, les 27 n'ont pas voulu aller jusqu'à l'exclusion du système SWIFT, ce réseau qui permet les échanges bancaires, de plus en plus de voix s'élèvent aujourd'hui pour aller jusqu'à cette extrémité. L'Union européenne a également l'intention de viser la tête de la Russie. Angélique Bouin, vous êtes à Bruxelles, ce sont les avoirs de Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères qui vont être gelés.
Oui, la décision vient d'être confirmée à l'issue de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères. Ils étaient réunis ici pour définir le contour précis des sanctions prises hier par les 27 et ils devraient donc ajouter le gel de ces avoirs à leur panier. Une décision politiquement forte mais plus symbolique que financière. Tout de même, les deux hommes ne disposant pas officiellement en tout cas de biens importants en Europe. Et puis, ils devraient rester libres de s'y rendre afin de permettre d'éventuelles négociations. C'est en tout cas ce qu'a affirmé à son arrivée le ministre autrichien des Affaires étrangères, information non confirmée à 7h. Nous frappons le système Poutine là où il doit être frappé, non seulement sur le plan économique et financier, mais aussi au cœur de son pouvoir, avait estimé à son arrivée la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Le sujet avait été discuté hier par les dirigeants en sommet, mais pas vraiment tranché. Berlin ayant, avec d'autres États membres, émis quelques réserves. Réserves levées ce matin lors de la réunion entre ambassadeurs. Les Européens qui ne s'interdisent pas d'autres mesures, qui veulent à la fois rester agiles et unis sans pour autant fermer la porte au débat interne entre eux. L'exclusion de la Russie du système interbancaire SWIFT, fortement réclamée par Kiev et poussée par plusieurs capitales, vous l'avez dit, n'est pas à cette heure-ci totalement écartée.
Angélique Bois en direct de Bruxelles, merci. Vladimir Poutine a promis de répondre aux sanctions par des sanctions. Ce soir, la principale compagnie aérienne russe Aeroflot suspend ses vols vers Londres et Dublin en réponse aux avertissements britanniques. La Chine a décroché son téléphone aujourd'hui pour parler à son allié russe. Xi Jinping s'est entretenu avec Vladimir Poutine ce matin, se disant favorable à un règlement du conflit par la voie diplomatique. On n'en est malheureusement plus là aujourd'hui. Le pape François s'est rendu également aujourd'hui à l'ambassade de Russie au Vatican pour exprimer sa préoccupation. Il appelle les catholiques à une journée de prière et de jeûne le 2 mars, mercredi des cendres, qui marque le début du carême.
Nous l'avons entendu au début de ce journal, Cécile, les Ukrainiens fuient les combats.
Oui, les Nations Unies estiment que 5 millions d'Ukrainiens pourraient avoir passé une frontière ou une autre dans les jours et les semaines à venir. Philippe Augrandier, le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés.
Nous avons observé entre hier et aujourd'hui, en fait, en deux jours, déjà plus de 50 000 personnes qui ont traversé les frontières. En majorité en Pologne, à peu près 30 000, et en Moldavie, à peu près 20 000. Bien sûr, vous savez, nos collègues sont aux frontières. Ils voient de l'autre côté des longues files de voitures, et jusqu'à peut-être plus que 20 km de voitures qui essayent de rentrer en Moldavie de la route de Odessa. Donc ces chiffres vont monter très rapidement et ça va être un grand défi pour ces pays et il faudra que l'aide européenne et internationale continue d'affluer pour pas mal de temps, je pense, parce que malheureusement, ça va durer.
Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. 500 Français se trouvent toujours en Ukraine, selon les chiffres du Quai d'Orsay. L'ambassadeur de France est à Kiev et pour sécuriser l'ambassade, une équipe du GIGN est arrivée en renfort. C'est 8 gendarmes de l'unité d'élite assurent la protection du personnel diplomatique. En début d'après-midi, Emmanuel Macron s'est adressé au Parlement français via un message lu par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand et celui du Sénat Gérard Larcher. Une possibilité constitutionnelle utilisée pour la première fois en 20 ans, signe de la gravité de la situation. Le président de la République a annoncé le déblocage de 300 millions d'euros pour aider l'Ukraine. Et en conclusion de ces 8 minutes, il a appelé à l'unité nationale. Simon Le Baron, vous étiez au Palais Bourbon et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet appel a été vite oublié par certains députés.
À peine Richard Ferrand a-t-il lu ces mots d'Emmanuel Macron.
Je sais qu'au-delà des divergences qui vous opposent légitimement, le Parlement saura répondre dans l'unité.
Qu'aussitôt les divergences prennent le pas sur l'unité. À la sortie de l'hémicycle, Mathilde Panot et les Insoumis, dans le sillage de leur chef, ont beau dénoncer l'agression russe.
Le président Vladimir Poutine porte l'entière responsabilité de la nouvelle situation.
Les socialistes et leur premier secrétaire Olivier Faure fustigent les positions de certains candidats.
Il y a ceux qui sont dans une espèce de russophilie incompréhensible, ou plutôt de poutino-soumission, qui est absolument incompréhensible.
Dans leur viseur, Éric Zemmour, Marine Le Pen, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, pas épargné par la présidente des députés PS, Valérie Rabault.
Oui, parce qu'il a une position pas claire sur des sujets aussi graves que la guerre en Europe. On doit être dans la clarté et lui n'est pas clair.
Fureur des insoumis qui se précipitent à nouveau au micro.
J'attendais qu'ils terminent leur cirque.
Indignée, la députée Clémentine Autain.
Au moment où ils sont dans un naufrage politique, en particulier Madame Hidalgo, elle pense que la super bonne idée, c'est de taper sur Jean-Luc Mélenchon en racontant y compris des mensonges. De là à dire que les insoumis sont pro-poutiniens, le pas a été franchi et ce pas est indigne.
Un débat est prévu mardi à l'Assemblée. N'espérez pas d'union sacrée dans la classe politique. Elle n'est même pas possible à gauche.
On a également appris aujourd'hui qu'Emmanuel Macron allait raccourcir son passage au Salon de l'agriculture qu'il inaugure demain à Paris. Il s'éclipsera ensuite pour laisser Jean Castex effectuer la traditionnelle déambulation au milieu des animaux. Depuis le début de la crise ukrainienne, la position de François Fillon semblait intenable. L'ancien Premier ministre siège au Conseil d'administration de deux entreprises russes. Dans une tribune qui sera publiée ce week-end dans le journal du dimanche, il annonce qu'il démissionne de ses mandats. Pour la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, c'est un poids en moins. Anne Souhaitement, vous êtes à ses côtés en Normandie où elle est en campagne.
Oui, grand soulagement pour Valérie Pécresse qui a été informée par François Fillon lui-même cet après-midi par téléphone après avoir refusé de répondre toute la matinée gênée aux questions le concernant.
François Fillon vient d'annoncer sa démission des conseils d'administration des deux entreprises russes dans lesquelles il siégeait et je crois que c'est une décision qui l'honore.
Pourquoi c'est une décision qui l'honore ?
Parce que aujourd'hui la Russie et les intérêts russes sont mêlés. Et l'attitude de M. Poutine ne peut pas être dissociée de celle des grands groupes russes qui sont l'armature de l'État russe.
Soulagement car la pression était devenue trop forte. La campagne de Valérie Pécresse commençait à pâtir de la présence de François Fillon au conseil d'administration de grands groupes russes et de ses prises de position. Hier encore, l'ancien Premier ministre condamnait l'invasion lancée par Moscou, mais déplorait le refus des Occidentaux d'entendre les revendications russes concernant l'OTAN. Une position intenable pour la candidate de la droite qui est donc ce soir libérée de ce que l'un de ses porte-parole qualifiait en privé de boulet depuis quelques jours. Valérie Pécresse peut donc désormais défendre ses positions sans l'ombre de l'ancien Premier ministre au-dessus de sa tête. Ce soir, elle se félicite des sanctions prises contre les avoirs de Vladimir Poutine et demande qu'on aille plus loin en privant les Russes d'accès au réseau financier SWIFT.
De nombreuses villes de France font flotter le drapeau ukrainien en solidarité avec le peuple victime de la guerre. Toulouse, Bordeaux, Marseille, à Paris, la Tour Eiffel va être éclairée aux couleurs de l'Ukraine ce soir. Le bleu et le jaune qui sont aussi sur l'application Tous Anti-Covid. Vous avez peut-être vu apparaître le petit drapeau en haut à gauche de l'écran de votre téléphone. Il ne s'agit pas d'un bug ou d'une cyberattaque, mais bien d'une décision des ministères de la Santé et du Numérique. Le monde de la culture veut également marquer sa solidarité. Le directeur du Festival d'Avignon se dit prêt à recevoir des artistes ukrainiens exilés. Olivier Py est actuellement en répétition à l'Opéra de Berlin. Il met en scène les Vêpres siciliennes de Verdi avec une troupe originaire d'Europe de l'Est. Et tous pensent à l'Ukraine.
Je travaille avec des artistes qui viennent de Russie, qui viennent d'Ukraine, qui viennent d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, qui sont tous sous le choc. Je crois qu'ils ont décidé d'ailleurs ce soir, pour le public de Berlin, de chanter en hommage à l'Ukraine un chœur de Verdi, un chœur de Macbeth. Nous avons à la fois une sensation de révolte, de dégoût.
Qu'est-ce que les artistes français peuvent faire pour aider les artistes ukrainiens ?
Bon, d'abord, je crois qu'il faut considérer que si nous n'avons pas de pouvoir militaire et peut-être pas de pouvoir politique, nous avons encore un pouvoir qui est d'exprimer notre solidarité, de désigner l'agresseur, de ne pas confondre l'agresseur et l'agressé, de déconnecter la propagande de Moscou, qui est extrêmement violente et qui, d'ailleurs, avec des fake news, arrive à convaincre une partie des Russes aujourd'hui.
Seriez-vous prêt, vous, à accueillir des artistes ukrainiens au Festival d'Avignon ?
Bien évidemment, dans la mesure du possible et des choses possibles, bien évidemment, je crois qu'on doit absolument accueillir les Ukrainiens en général et les artistes en particulier.
Olivier Py, joint par Stéphane Capron. La guerre en Ukraine qui a des répercussions dans beaucoup de domaines, y compris le sport. La finale de la Ligue des champions de football est déplacée au Stade de France à Saint-Denis. L'UEFA refuse de laisser les Russes l'organiser comme c'était prévu à Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain. Réaction du Kremlin, c'est dommage. Par ailleurs, le Grand Prix de Formule 1 de Russie prévu à Sotchi en septembre est annulé. Tout cela peut paraître anecdotique, mais on le signale quand même. La Russie est interdite de participation à l'Eurovision cette année. Sur franceinter.fr, vous retrouvez un dossier complet sur cette guerre et notamment une sélection de photos très fortes qui illustrent les premières heures du conflit.
Au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, les proches d'un des deux terroristes ont été entendus aujourd'hui.
Les deux assassins du père Hamel, tués dans son église en 2016, ont été abattus après l'attaque. Ce sont donc trois complices présumés qui sont jugés depuis deux semaines. Et aujourd'hui, la mère et la sœur d'Abdelmalik Petitjean, l'un des assaillants, sont venus témoigner. Ariane Grissel, vous êtes à la cour d'assises spéciale à Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Toutes deux assurent n'avoir rien vu venir.
Oui, c'est une mère nerveuse, en colère, qui témoigne, une mère qui, plus que de l'attentat, parle de son deuil. « Tous les soirs, je pleure, je dis, on m'a pris mon bébé. Qui ça, on ?» lui demande une assesseur. La témoin s'adresse à l'accusé, Farid Khalil, son neveu. « Tu t'es débiné, tu savais que Malik était quelqu'un de naïf. » Quand le président l'interroge sur ce qu'elle pouvait savoir du funeste projet, la mère de famille répond avoir compris à la dernière minute. « Je pense qu'elle était dans le déni », a jugé sa fille un peu plus tôt dans cette même salle d'audience, une jeune femme à la voix posée. Frères et sœurs se voient rarement, ne parlent pas de religion. C'est après que je me suis dit qu'il y avait des signes. Dans les heures qui suivent l'attentat, la jeune femme allume son ordinateur pour faire des achats et voit s'afficher des conversations qu'Abdelmalik Petitjean, en visite quelques jours plus tôt, a eues au sujet d'une future attaque. Elle fait le lien, prévient la police. Un signalement déterminant, précise l'avocate générale, à cette jeune femme en pleurs qui dit au parti civil sans vouloir énormément « j'ai pas fait mon rôle de grande sœur », puis ajoute « mon regret, c'est de ne pas avoir allumé l'ordinateur la veille ».
Ariane Grissel, depuis la cour d'assises spéciale. Jean-Marc Morandini sera bien jugé pour corruption de mineurs. L'animateur télé avait déposé un pourvoi en cassation qui vient d'être rejeté. Il est mis en examen depuis 2016 après la plainte de deux jeunes hommes qui l'accusent de leur avoir fait des propositions sexuelles alors qu'ils étaient mineurs. Pas facile de trouver des motifs d'espoir en ce moment, en voici un. La pandémie de Covid-19 poursuit sa décrue dans le monde. Le nombre de cas quotidiens a été divisé par deux en un mois. Cela continue toutefois d'augmenter en Asie. En France, le taux d'incidence est en moyenne de 800 cas pour 100 000 habitants. Et puisque, malgré l'actualité, nous n'avons pas encore perdu tout à fait nos illusions, foulons tout de même un instant le tapis rouge. La cérémonie des Césars a lieu ce soir. Antoine Decaune en maître de cérémonie et le film de Xavier Giannoli en grand favori. Alexis Demeillère, vous allez suivre ça pour France Inter. Faites-nous un peu le scénario de la soirée. À quoi faut-il s'attendre ?
Eh bien, cette comédie humaine sur la scène de l'Olympia est bien parti pour honorer une adaptation de Balzac.
Il nous vient d'Angoulême.
Lucien de Rubempré, pour vous servir.
15 nominations pour Illusion perdue, film sur le monde de la presse et de l'édition au 19e siècle qui a reçu au début du mois le prix des auditeurs du Masque et la Plume. Après avoir remporté le Lion d'Or à Venise, Audrey Diwan et son événement sur l'avortement auront aussi un coup à jouer. Et puis on a hâte de savoir si Valérie Le Mercier sera pour la première fois sacrée meilleure actrice pour Aline.
Faut que tu guérisses.
Je suis pas malade, maman. Je tombe en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil.
Cette comédie très musicale sur la vie de Céline Dion est nommée 10 fois. C'est une de moins qu'Annette, signée Léo Scarrax. Peut-être l'occasion pour lui, à 61 ans, de recevoir le premier César de sa carrière grâce à ce feu d'artifice pop interprété et chanté par Adam Driver et Marion Cotillard. Bac Nord totalise pour sa part 7 nominations, à polar à succès et à polémique, conséquence de son plébiscite par les candidats d'extrême droite à la présidentielle. Il y aura bien sûr, Cécile, aussi du glamour et des paillettes ce soir avec Isabelle Huppert qui va remettre un César d'honneur à l'Australienne Cate Blanchett.
Merci Alexis de Meyer. La 47e cérémonie des Césars est à voir en clair sur Canal Plus à partir de 21h. Et bien sûr, France Inter vous dira tout du palmarès.
Merci beaucoup Cécile Bidou. Vous avez le temps d'aller mettre votre robe à paillettes, vous, votre smoking. Alexis de Meyer, on prend des nouvelles du temps dans un instant.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Claire.
T'en sera froid demain matin avec quelques bandes brouillard.
Oui, après une nuit bien étoilée, les températures vont chuter pour afficher des valeurs souvent négatives au lever du jour. Prévoyez moins 1 degré à Lille, moins 2 à Montauban, moins 3 à Reims, Nancy et Grenoble, moins 4 à Nevers et moins 5 à Aurillac. Naturellement, les grisailles sous forme de nuages bas, brumes ou bandes de brouillard, parfois givrants, vont se développer essentiellement entre le nord de la Seine et le nord-est, et jusque vers l'Auvergne et le Lyonnais. Leur dissipation devrait se faire en cours de matinée. Et partout ailleurs, vous allez profiter du soleil des potrons minés. Côté température, les maximales évolueront entre 8 et 16 degrés. N'attendez pas plus de 8 ou 9 degrés dans le nord-est. À peine 10 degrés dans la capitale, 11 à Rennes, Tours et Orléans, 13 à Limoges, 15 à Biarritz et 16 à Toulon. Et puis dimanche, prévoyez un peu plus de nuages entre le Finistère et les côtes vendéennes et charentaises. Quelques grisailles tenaces à proximité de la Garonne et un très beau soleil partout ailleurs.
C'est noté. Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.